Le grand débat, 18h-19h, avec Nadir Djennad sur Africa numéro 1.
Il est 18h05 à Paris, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour votre rendez-vous de débat et d'information, le grand débat, l'actualité africaine, internationale et française, commentée et analysée sur Africa numéro 1 du lundi au jeudi. Pour participer au grand débat, numéro de téléphone le 01 55 07 58 00 depuis la France et le 00 33 1 55 07 58 00 depuis l'étranger. Le grand débat est réalisé par Hélène Bizio.
Le grand débat avec Nadir Djennad sur Africa numéro 1.
Le grand débat aujourd'hui, les relations entre la France et le Rwanda sous les auspices judiciaires. La peine de 25 ans de prison a été confirmée samedi 3 décembre dernier pour Pascal Simbikangwa, jugé en appel devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis pour son rôle dans le génocide rwandais qui a fait plus de 800 000 victimes, essentiellement des Tutsis au Rwanda, en 1994. Rappelons que c'est le premier Rwandais à être jugé en France, pays souvent accusé par Kigali d'avoir joué un rôle dans le génocide. Et nouvel épisode dans les tensions entre les deux pays, le Rwanda a annoncé fin novembre l'ouverture d'une enquête sur le rôle de 20 responsables français dans le génocide. Cette décision de la justice rwandaise infecte encore un peu plus les relations diplomatiques décidément très difficiles entre les deux pays qui s'opposent depuis 22 ans à propos des accusations sur le rôle de la France dans le génocide de 1994. Les relations entre Paris et Kigali ont-elles joué un rôle dans la condamnation de Pascal Simbikangwa ? Pourquoi le torchon brûle-t-il de nouveau entre Paris et Kigali ? Analyse et explication dans ce grand débat.
Le grand débat, analyse, décryptage, coup de gueule, commentaire. Le grand débat sur Africa numéro 1.
Nos invités ce soir, Fabrice Epstein, bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'Africa numéro 1. Vous êtes avocat et vous êtes l'avocat de Pascal Simbikangwa qui vient d'être condamné, je le rappelle, en appel à 25 ans de prison pour génocide et complicité de crimes contre l'humanité. Mehdiba, bonsoir.
Bonsoir Nadia.
Merci également d'avoir accepté l'invitation d'Africa numéro 1. Vous êtes journaliste pour l'hebdomadaire Jeune Afrique et vous êtes un spécialiste des relations franco-rwandaises. Bruno Boudiguet, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être présent sur le plateau. Vous êtes journaliste, éditeur, auteur de France-Afrique 2012, La bombe à retardement, aux éditions Aviso. Et par téléphone, depuis Reims, Alain Gauthier, président du collectif des partis civils pour le Rwanda. Nous allons commencer par vous, Alain Gauthier. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci de répondre à nos questions. Après 6 semaines de débat, la cour d'assises de Seine-Saint-Denis a donc confirmé la peine de 25 ans prononcée en première instance pour Pascal Simbikangwa, ex-officier de la garde présidentielle, âgé de 56 ans, qui a été reconnu coupable de génocide et complicité de crimes contre l'humanité pour des faits qui se sont déroulés il y a 22 ans. Et vous avez salué cette décision samedi soir dernier.
Oui, effectivement, nous pensons que il s'agit d'une décision qui est juste, même si Maître Epstein a prétendu le contraire à la fin du procès. Nous, ça fait des années que nous nous battons pour que les personnes qui sont susceptibles d'avoir participé au génocide des Tutsis, et je dis bien le génocide des Tutsis, non pas le génocide rwandais, eh bien, puissent être jugées en France, puisque la France refuse de les extrader. Et effectivement, nous avons salué cette condamnation, non pas comme une victoire, mais comme justice rendue aux victimes.
Pour vous, c'est une décision historique ?
Oui, vous savez, historique, on peut la considérer historique parce que c'est une décision qui est prise en France. Il est rare qu'on condamne quelqu'un pour génocide. C'est historique aussi pour les victimes. Et c'est aussi peut-être aussi une façon d'écrire l'histoire à la fois du génocide et l'histoire du Rwanda.
Restez avec nous, Alain Gauthier. Hein, nous allons vous retrouver d'ici quelques minutes. Hein, je rappelle que vous êtes président du collectif des partis civils pour le Rwanda. Alors, Fabrice Epstein, vous avez déploré samedi soir au moment du verdict une décision bâclée, je cite, qui fait honte à la justice française et vous allez vous pourvoir en cassation.
Exact. C'est vrai que j'ai déploré une décision qui m'a semblé complètement injuste, qui n'était pas justifiée et surtout qui n'avait pas pris en compte ce qui s'était passé pendant 6 semaines d'audience, à savoir des témoins qui viennent déposer, des témoins qui mentent et qui ne permettent pas de corroborer des faits, qui ne permettent pas au fond, si l'on donne de l'importance à des preuves, de condamner Pascal Simbikangwa. Et c'est pour ça que cette décision me semble être une décision complètement politique, injuste et que nous nous sommes pourvus en cassation.
Alors, quand vous dites une décision politique, qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Quand je dis une décision politique, je dis que c'est une décision qui permet de, à mon sens, faire en sorte que les relations entre Kigali et Paris soient bonnes et de dire à Kigali, voilà, enfin, après 20 ans, après plus de 20 ans, la première personne condamnée pour génocide au Rwanda par un tribunal français. Mmh. Et le problème, c'est que ce n'est pas le procès du Rwanda. C'est le procès de Pascal Sibikangwa. Mmh. Et là, je crois qu'il y a un amalgame et qu'il y a une erreur très importante qui est faite.
Mmh. Alors, Mediba, vous qui travaillez sur les relations franco-rwandaises, tout d'abord, comment ce verdict, selon vous, si vous avez des informations, a été accueilli à Kigali ?
Alors écoutez, moi à Kigali, j'y vais lundi prochain pour une semaine. Et je ne saurais pas vous le dire, ça vient de tomber. Bon, globalement, sur les réseaux sociaux, par exemple, on voit qu'au niveau des gens qui sont concernés par la question du génocide, bien évidemment, on a retweeté, on a posté les articles qui rendaient compte. Mais si vous voulez savoir la vie de Kigali, je pense qu'il faut se reporter à 2014, sauf erreur, à mars 2014, au moment du premier procès, oui, devant la cour d'assises de Paris. Oui. Et je relisais récemment, pour parler au plus haut niveau, donc le président Paul Kagame, en gros, a eu une sortie, parce que comme la commémoration venait quelques semaines après, on l'a fait réagir, il disait, bon, je traduis avec, oui, mes mots, hein, mais en gros, bon, voilà, je ne vais pas me mettre à applaudir ou sauter au plafond, oui, sous prétexte qu'au bout de 20 ans, la France a jugé pour la première fois une personne soupçonnée de génocide. Mmh. N'oublions pas quand même, revenons à quelques chiffres. Le Rwanda, d'après une infographie que je relisais récemment, je crois que c'est Human Rights Watch, ça doit dater au plus tard de 2014. C'est la justice de droit commun, 10 000 personnes, 10 000 jugements. Oui. Les gachacha, les juridictions traditionnelles qui ont été mises en œuvre au Rwanda, c'est 1,2 million. Oui. Voilà. Donc, qu'un Rwandais soit jugé à Paris 20 ans après, si vous voulez, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Oui. Voilà. Donc, je ne crois pas vraiment, et je laisse l'appréciation qui lui plaît de porter à Fabrice Epstein, mais oui, je ne crois pas vraiment qu'il y ait un enjeu, oui, diplomatique autour du cas Sibikangwa, mais ça aurait pu être n'importe lequel des 25 autres. Hein. Ce n'est pas, oui, spécifique à Sibikangwa. Il en faudrait beaucoup plus que ça pour apaiser les tensions, oui, au niveau rwandais.
Alors, nous allons bien sûr revenir sur les tensions d'ici quelques minutes, mais tout d'abord, Bruno Boudiguet, la France, hein, peut juger des génocidaires rwandais présumés depuis 1996. Alors, outre Pascal Sibikangwa, la justice française a condamné en juillet dernier, en première instance, deux anciens bourgmestres à la réclusion criminelle à perpétuité pour génocide et crimes contre l'humanité. Est-ce, selon vous, à la France de faire ce genre de procès ?
Bah, à partir du moment où on a des gens qui sont présumés génocidaires, qui vivent en France depuis une vingtaine d'années ou depuis, mmh, plusieurs années, si c'est possible de le faire légalement, évidemment, ouais, qu'il faut le faire. Maintenant, moi, je remarque qu'il y a quand même une centaine de génocidaires présumés qui vivent en France donc depuis la fin du génocide perpétré contre les Tutsis.
Ouais.
Et donc, on a trois personnes qui ont été jugées sur une centaine, en gros. Mmh. Donc, c'est effectivement, quand Mediba parlait un peu d'une goutte dans un océan, on est même dans la goutte de l'océan, elle est même en France actuellement, puisqu'il y a plein de procédures qui n'ont jamais abouti. Il y avait une solution aussi d'extrader les présumés coupables.
Oui.
Sauf qu'à chaque fois, c'est refusé, si j'ai bonne mémoire.
Oui.
Donc, c'est ça aussi le problème. C'est que je pense que le Rwanda voudrait bien les juger,
oui,
ces personnes.
Oui.
Néanmoins, elles sont non extradées à chaque fois. Il y avait, oui, des décisions judiciaires qui sont prises. Dans le sens où, donc il faut effectivement, s'ils refusent l'extradition, alors à ce moment-là, il faut les juger tous, il faut engager toutes les procédures. Mais trois sur une centaine, ça ne me paraît pas... le bilan est quand même assez... assez maigre.
Non, mais je vous posais cette question parce que peut-être qu'il peut y avoir le sentiment auprès d'une opinion publique en Afrique que la France se mêle des affaires rwandaises et que c'est au Rwanda de juger les génocidaires présumés.
Mmh. Mais le problème, c'est que la France s'est mêlée des affaires, ouais, rwandaises donc depuis très longtemps, avant le génocide et dans la période justement de 94. Et même après, puisque on a des soupçons de livraison d'armes, de soutien, ouais, aux forces génocidaires à l'époque. Donc voilà. Et puis, faut pas oublier que la France a accueilli assez généreusement, apparemment,
ouais,
tous ces réfugiés entre guillemets. qui sont donc souvent des gros poissons, on va dire, c'est pas les petites mains du génocide qui ont été accueillies en France, c'est plutôt des gens qui étaient plutôt des cadres, on va dire. Ouais. Donc voilà, c'est donc ils se retrouvent en France. Donc on rappelle d'ailleurs que l'épouse du président Habyarimana avait été accueillie avec un bouquet de fleurs et 200 000 francs. Enfin bon. Donc, je pense qu'il n'y a pas de lieu d'y avoir de polémique sur le droit ou non de juger, puisque bon, voilà, c'est comme ça. Hein,
Alors, nous allons demander l'avis à Alain Gauthier. Alain Gauthier, vous, le collectif que vous présidez, des partis civils pour le Rwanda, traque en fait les auteurs présumés de génocide qui ont trouvé refuge en Europe et en particulier en France.
Oui, alors je conteste un peu le terme de traquer. Nous demandons à la justice effectivement de s'occuper des gens que nous soupçonnons d'avoir participé au génocide et effectivement nous sommes à l'origine de la plupart des plaintes et nous regrettons à la fois le refus d'extrader sous un prétexte qui n'est pas acceptable puisque on prétend que c'est parce que la loi organique au Rwanda qui punit le génocide est postérieure au génocide lui-même, alors qu'en France on a jugé Papon, Touillet, sur des en s'appuyant sur les grandes conventions internationales. Donc c'est le collectif des partis civils qui est à l'origine de la plupart des plaintes et on peut regretter que la justice aille si lentement. Maintenant, la justice est en route. Nous réjouissons de ce qui arrive maintenant. Nous attendons probablement pour l'année prochaine des clôtures d'instruction qui nous mèneront vers d'autres procès en cour d'assises. Mais c'est tout le sens de notre combat.
Vous auriez préféré qu'il soit jugé, par exemple, Pascal Simikongwa et les bourgmestres, vous auriez préféré qu'il soit jugé au Rwanda ?
Ah, bien évidemment. En étant jugé en France, on juge très loin du Rwanda. C'est loin dans le temps, c'est loin des victimes elles-mêmes. Ce n'est pas très rédempteur pour les victimes. Qu'est-ce que les victimes ont eu comme information, parce qu'il faut savoir quand même que ce procès s'est déroulé en l'absence totale de médias. C'est la raison pour laquelle, personnellement, tous les soirs, j'ai dû faire l'effort de faire un compte-rendu pour notre site Internet. Sinon, personne n'avait aucune information sur ce qui se passait dans ce prétoire. Donc, bien sûr que nous préférerions que la France extrade. Mais maintenant, ça fait plus d'une trentaine de fois que la Cour de cassation refuse l'extradition. Bon, ben écoutez, si on n'extrade pas, il faut juger. Mais à quel prix ? Combien de temps va-t-il falloir, ne serait-ce que juger la vingtaine, s'il y avait une vingtaine de procès, comment la justice française va s'y prendre pour juger toutes ces personnes.
Restez avec nous, Alain Gauthier. Alors, Fabrice Epstein, vous pensez-vous que les relations entre Paris et Kigali ont interféré dans la condamnation de Pascal Simikongwa, qui a eu un impact
Je crois qu'il faut voir le procès comme un tout, c'est-à-dire qu'il y a eu un appel, mais avant l'appel, il y a eu une cour en première instance à Paris. Cour en première instance qui devait donner son verdict quelques jours avant le 20e année des commémorations du génocide des Tutsis. Évidemment, ça a joué. Évidemment, il y avait un impact, il y avait une pression immense et une attente immense de la part du Rwanda pour que les juridictions françaises...
Vous voulez dire une pression sur les juges ?
Pression sur les juges, une pression sur le gouvernement qui s'est ressentie dans le cadre de ce premier procès. Une pression sur les témoins qui sont venus tremblants lorsque ils étaient entendus par la cour d'assises. Et ça a joué. Ça a joué parce que le procès, celui-ci, le premier, était suivi par énormément de journalistes. Parce que le procès est filmé, parce qu'on dit que c'est un procès pour l'histoire, que c'est historique. Mmh. Et tout cela fait qu'on est dans le paralégal. On oublie de voir ce qui se passe dans une cour d'assises et de savoir si oui ou non il y a assez de preuves pour condamner quelqu'un. Et on se retrouve dans un procès strictement politique, avec un accusé qui n'est pas entendu.
Mehdiba, procès politique, est-ce que vous êtes d'accord ou vous vous opposez à cette définition ?
Alors, moi, je réserve une réponse trop directe, en ce sens que je n'ai pas... Moi, je suis basé à Dakar, par ailleurs, même si je m'intéresse au Rwanda depuis 1994, je n'ai pas suivi les audiences. Donc, je ne veux pas me prononcer sur la teneur des audiences. Je pense, comme je le laissais entendre dans ma réponse précédente, si vous voulez, que le dossier Simbikangwa, et quand bien même le premier verdict a été rendu en mars, alors que le 7 avril avait lieu la 20e commémoration, je pense que ça ne comptent pas véritablement dans, en tout cas, la normalisation des relations. Par ailleurs, je ne comprends pas très bien le scénario par lequel on serait parvenu à influencer par deux fois une cour d'assises, donc des jurés populaires. Je ne comprends pas, je ne vois pas non plus comment les magistrats... Je veux dire que si la France... Déjà, là où je ne suis pas d'accord, c'est parce que je pense que la France, en dehors d'une très courte parenthèse sous Nicolas Sarkozy, n'a jamais eu l'intention particulière d'apaiser ses relations avec le Rwanda. Oui, oui. Je ne connais aucun signe qui pourrait montrer le contraire. Au mieux, c'est une sorte de statu quo dans la glaciation. Oui. Au pire, c'est des relations tendues. Oui. Bon, par ailleurs, on y reviendra par la suite, donc je ne vais pas m'étendre, mais je pense que le dossier judiciaire, qui est de nature à crisper, et on l'a vu récemment, les relations entre Paris et Kigali, ce n'est ni le dossier Simbikangwa, ni celui des bourgmestres, ni aucun des autres dossiers qui sont actuellement, le dossier sur l'attentat.
Bruno Houdiguet.
Oui, je suis d'accord avec Mehdiba, c'est-à-dire que le dossier...
Vous croyez que, par exemple, il y a une pression sur des juges dans le cadre du procès Simbikangwa?
Non, pas du tout. Non, ça ne me paraît pas crédible, comme le dit Mehdi, pour d'excellentes raisons. Mais effectivement, le contentieux entre la France et le Rwanda, il tient autour du génocide et du dossier de l'attentat qui a servi... d'écran de fumée pendant très longtemps et qui a empoisonné les relations. Oui. Et, ce dossier de l'attentat, effectivement, c'est un dossier, le dossier clé des relations franco-rwandaises. Parce que, justement, il y a eu beaucoup de polémiques là-dessus. L'instruction de Jules Bruguière était... je dirais que c'était quand même très très douteux, à la fois dans les interprétations et puis dans le techniquement. On a vu pas mal de choses complètement invraisemblables. Quand on parlait des 20 officiers rwandais qui sont accusés par la justice rwandaise, enfin qui sont au cœur d'une enquête, enquête, une reprise de une non-clôture de l'enquête sur l'attentat qui laisse toujours une espèce de doute planer sur la responsabilité du FPR dans l'attentat contre Abiy Rahimana. Je considère qu'au vu du dossier, même si je ne suis pas le grand spécialiste du tout de l'attentat, mais de tout ce que j'ai lu, j'ai quasiment lu beaucoup de choses quand même sur l'attentat depuis des années. Les accusations contre les FPR sont complètement invraisemblables. Ouais. Et ça fait, ça fait au moins cinq ans qu'il y aurait dû y avoir ce non-lieu en faveur des gens du FPR qui avaient été accusés. Le dossier est complètement ahurissant. Je pense que c'est ce fait qu'ils n'ont pas voulu donner ce non-lieu et qu'ils ont encore relancé l'enquête sous le prétexte qu'il y aurait encore quelqu'un qui voudrait dire des choses. Kagame m'a dit à l'oreille que j'avais fait l'attentat, etc. C'est encore toujours aussi invraisemblable qu'avant, et donc je pense que ça attise évidemment la colère de Kigali.
Alors justement, Mehdiba, pourquoi la justice française a rouvert ce dossier et a souhaité entendre un opposant en exil, Kayumba Nyamwasa?
Alors la vraie raison, à ma connaissance, elle n'est pas explicitement en procédure. Donc on est obligé de la déduire. Maintenant, il faut se souvenir de deux choses. Enfin, il y a deux éléments importants. Kayumba Nyamwasa, il faut se rappeler qu'en 94, au moment où l'attentat est commis, il est dans le sein des saints de l'armée patriotique rwandaise, c'est-à-dire de l'environnement militaire de Paul Kagame. Il est responsable de l'intelligence militaire, plutôt des services de renseignement militaire. Ouais. Et il va rester pendant des années un des officiers supérieurs de l'armée rwandaise les plus hauts. Ouais. En 2010, il fait défection. Ouais. Bon. Et il devient un opposant radical en exil. Il rejoint ce qu'on appelle le Rwanda National Congress, qui sont d'anciens proches de Kagame, qui sont devenus des opposants extrêmement virulents et qui vivent en exil. Alors, Kayumba Nyamwasa, depuis 2011 à peu près, il laisse miroiter qu'il a des révélations absolument incroyables à faire sur l'attentat. Il les a distillées dans les médias, je pense notamment à RFI qu'il a longuement interviewé en 2013 et à la BBC qu'il a filmé dans le cadre d'un film qui est passé en 2014. Et à l'époque, il dit, alors il est sibyllin, il dit « J'étais dans une position qui fait que je sais tout ». sous-entendu. D'accord. Bon. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'en fait, il a envoyé, au bout de 4 ans, la justice française a voulu l'entendre. Même les avocats des Rwandais mis en cause ont voulu l'entendre. Mais il est réfugié en Afrique du Sud, il n'a jamais voulu se déplacer en France. Et l'Afrique du Sud n'a jamais donné suite à la demande française d'aller l'entendre en Afrique du Sud. Donc en fait, les choses, au bout de 4 ans où il fait miroiter des révélations, alors que l'instruction est close depuis des mois, 6 mois environ, il adresse une note de 10 pages, un témoignage devant notaire, pour dire « voilà mes révélations ». Et là, on se rend compte que les révélations de Nyamwasa ne tiennent pas la route. Mais la deuxième dimension qui fait que la justice a vocation à l'entendre, c'est que, souvenez-vous, en 2006, la première grosse crise diplomatique entre la France et le Rwanda, c'est quand l'ordonnance Bruguière est diffusée sur Internet et qu'on apprend qu'il y a 9 Rwandais, dont un qui apparemment n'existe pas, donc on va dire qu'il y en avait 8, sont soumis à des mandats d'arrêt internationaux. Or, Nyamwasa est le seul parmi les 8 qui est toujours sous mandat d'arrêt international, parce que les 7 autres, ceux qui sont des proches toujours du régime, ont été entendus par le juge Trévidic au Burundi et ils ont été mis en examen, on a levé les mandats d'arrêt. Donc on peut comprendre que les juges souhaitent, avant de clore, entendre le seul suspect qui est toujours sous mandat d'arrêt international. Sauf que ça me semble très peu vraisemblable, et j'en termine, parce qu'il y a rien qui permet de dire que l'Afrique du Sud va autoriser ce qu'elle a refusé pendant 4 ans. Oui. Mais surtout parce que Nyamwasa a vendu son témoignage à la justice française en disant « je vais venir à Paris ». Et puis quand les juges ont parlé avec son avocate, il a dit « ah non, si vous ne me fournissez pas les gardes du corps, finalement, je ne vais pas venir ». Donc du coup, on se retrouve au point zéro. Et c'est ça qui a fait déborder le vase. J'y reviendrai éventuellement.
Merci de rester avec nous pour ce grand débat consacré ce soir aux relations entre la France et le Rwanda. On se retrouve d'ici quelques minutes après une pause avec nos invités.
Le grand débat, 18h-19h, avec Nadir Djennad sur Africa numéro 1.
Le grand débat, c'est du lundi au jeudi sur Africa numéro 1. Merci de rester avec nous. Le thème ce soir, les relations entre la France et le Rwanda sous les auspices judiciaires. Nos invités, Fabrice Epstein, avocat de Pascal Sibikangwa, qui vient d'être condamné en appel à 25 ans de prison pour génocide et complicité de crimes contre l'humanité. Mehdi Ba, journaliste pour l'hebdomadaire Jeune Afrique, spécialiste des relations franco-rwandaises. Bruno Boudiguet, journaliste éditeur, auteur de France-Afrique 2012, La bombe à retardement aux éditions Aviso. Et par téléphone depuis Reims, Alain Gauthier, président du collectif des partis civils pour le Rwanda. Alors Fabrice Epstein, vous, quel est votre sentiment concernant la rouverture du dossier par la justice française, la justice française qui souhaite entendre donc un opposant rwandais en exil, Kayumba Nyamwasa?
Je pense que c'est très important que ce dossier soit réouvert et qu'il faut entendre tout le monde, il faut entendre Nyamwasa. Et d'ailleurs, cette question du FPR et de l'attentat, elle est très présente dans les dossiers d'assises, celui des bourgmestres par exemple, ou celui de Pascal Sibikangwa, et ceux qui vont venir, pour que les jurés populaires puissent comprendre la situation et puissent comprendre à qui on peut imputer cet attentat et in fine le début du génocide. Donc il est important à mon sens que Nyamwasa soit entendu et qu'on puisse enfin clôturer cette affaire et que le débat soit entièrement clos. Puisque vraiment, c'est cette influence du FPR, ces différents rôles, on les perçoit, on les entend à la cour d'assises, c'est discuté, et il est nécessaire que lorsque, par exemple, une partie impute ce crime au FPR, qu'on puisse comprendre son point de vue. Ou du moins que ça puisse être complètement arrêté, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et ça pollue le débat dans les cours d'assises.
Sauf que, enfin,
Bruno Boudiguet, allez-y.
Sauf qu'en fait, dans cette procédure, donc cette enquête à propos de l'attentat, il y a toujours une piste qui n'a jamais été explorée, c'est la piste française. Bon, même si ça doit être assez difficile, mais en fait, on est toujours dans une instruction à un sens unique. Donc, à un moment donné, il va falloir quand même se poser les questions sur le... Bon, déjà, on sait le rôle prééminent de la France-Afrique au Rwanda à l'époque. Elle était partout, dans tous les rouages de l'État rwandais, que ce soit l'état-major militaire, etc. Donc, il y avait des soldats français à l'aéroport, dans la caserne de Kanombé, donc de là où sont partis les tirs. Donc, je n'accuse pas ces soldats, on n'a aucune info là-dessus. Sauf qu'il faut quand même déblayer toutes ces pistes. Parce que, je ne comprends pas qu'en 18 ans de procédures judiciaires qu'on n'ait jamais eu. Alors évidemment, jusqu'en 2006, c'était ou 2008, c'était le juge Bruguière. Il est qualifié souvent de juge de la raison d'État, etc. Donc on comprend que voilà que ça n'a pas été sa tasse de thé. Mais enfin, là, depuis on va dire 8 ans, on sent pas du tout que on veut résoudre cette affaire autrement que par non-lieu ou pas non-lieu contre le FPR, alors qu'il y a d'autres pistes. Je veux dire, on sait que la piste du FPR est complètement invraisemblable pour des centaines de raisons diverses et variées.
La principale, par exemple, pour vous dire
Le tir est parti, on sait, avec l'expertise acoustique et judiciaire.
L'expertise acoustique, vous savez qu'elle a été faite en France, hein, mais...
Oui, d'accord, mais on sait il y a des témoins, tout un travail qui a été fait qui démontre que le tir est parti du camp Kanombé. Donc on est carrément au cœur de l'appareil militaire rwandais, juste à côté de la présidence et de l'aéroport. C'était le cœur du militaire du régime les tirs sont partis de là. On imagine vraiment mal comment un commando du FPR puisse rester plusieurs heures, parce qu'il fallait quand même rester plusieurs heures à attendre que l'avion revienne. On savait pas exactement quand l'avion allait revenir, etc. Donc c'était des gens qui se sont postés pendant plusieurs heures à attendre l'avion au milieu de dizaines de barrages. Dans un endroit qui était quadrillé par les forces de sécurité, etc. Donc, c'est complètement invraisemblable. Ça, c'est une des raisons, une des raisons les plus connues. Ça semblait partir dans un bon sens quand André Vidic était aux manettes de l'enquête. Et puis, ça s'est arrêté comme ça. À un moment donné, il faut qu'on sente que l'enquête aussi avance dans plusieurs directions, puisque la direction du FPR n'est pas concluante du tout. Donc, il faut analyser d'autres pistes. Par exemple, ces 5 militaires français qui vivaient au camp Kanombé, par exemple, il faut quand même faire un état des lieux de leur cursus. Ils sont présumés innocents, il n'y a jamais eu de... On ne sent pas du tout cette volonté. Donc on est et on est un peu bloqué de partout, puisque le TPIR, par exemple, c'est la France qui le finance notamment. Donc jamais aucun Français n'a été inquiété par le TPIR.
Problème du TPIR, c'est qu'il aurait dû gérer la question de l'attentat. Et vous le savez bien que ça n'a pas été possible, que Kigali a refusé. Il y a eu une zone de tension immense. Que s'il y avait bien un tribunal qui aurait pu et qui aurait dû prendre en charge cette affaire, c'est bien le TPIR pour gérer cette question. Le TPIR était à Rouchal et à Kigali, c'était très simple. Ils auraient pu enquêter. On aurait pu avoir une réponse très fiable du tribunal pénal international pour le Rwanda. Kagame s'est toujours opposé à ce que le TPIR enquête sur les crimes du FPR. Dans un sujet qui, à mon sens, pose vraiment problème et montre qu'il y a un malaise, en tout cas une volonté claire de la part de Kigali de ne pas permettre à des enquêteurs...
Mais l'attentat n'est pas le génocide.
Pardon ?
L'attentat n'est pas le génocide.
Je n'ai pas dit ça.
Et le TPIR, c'est spécialement le génocide, mais on a des Français qui ne seront jamais jugés, qui n'ont jamais été jugés au TPIR ou à la CPI, n'en parlons pas, puisqu'on a l'impression qu'il n'y a que des Africains qui sont jugés à la CPI. Enfin bon, et donc on ne sait plus à quel sens vouer, puisque on a l'impression que la justice en France n'est pas spécialement indépendante, puisqu'elle n'arrive pas à enquêter sur...
Je pense aussi qu'elle n'est pas forcément indépendante.
J'ai raison. Enfin, bon.
Pour d'autres sujets, peut-être, mais...
D'accord. Alain Gauthier, quel est votre sentiment concernant à la fois la rouverture de cette enquête concernant l'attentat du 6 avril 1994 et est-ce que vous êtes d'accord avec Bruno Boudiguet dans le sens où toutes les pistes n'ont pas été explorées par la justice ?
Moi, je suis plutôt d'accord avec ce qu'a dit Mehdi Ba. Tous ces dissidents du FPR qui, après des années, ont des révélations à faire, il faut quand même savoir que généralement, ce sont toujours des gens qui ont quitté le Rwanda après avoir commis un certain nombre de malversations financières ou bien parce qu'ils n'ont pas obtenu les postes qu'ils espéraient. Et puis, je voudrais dire aussi, est-ce qu'il faut s'apesantir sur cet attentat Vous savez, le génocide était en marche bien avant l'attentat. On parle de l'attentat comme élément déclencheur. Bon, c'est l'étincelle qui a peut-être mis le feu aux poudres,
oui.
Mais le génocide était déjà en route, sinon oui, c'est pas un génocide.
Oui, oui.
Parce que là, Maître Epstein va nous dire que c'est une colère populaire, c'est une révolte spontanée. Or, dans tous les procès qui ont eu lieu, on insiste là-dessus, ce n'est pas le résultat d'une colère populaire. Ce n'est pas la première fois qu'un chef d'État est assassiné dans un pays et il n'y a pas eu systématiquement derrière un génocide. Donc le génocide était déjà bien
planifié,
en route.
Oui, c'est ce que vous vouliez dire.
Mais bien sûr, mais sinon c'est pas un génocide. Le génocide, il y a une définition internationale qui est reconnue, qui implique la planification, la préparation. moi, je donne toujours l'exemple de mon épouse qui était au Rwanda fin février 1994. Et qui a dû revenir en urgence parce que dans les rues de Kigali, il y avait déjà des cadavres, ces fameux cadavres que Simbi Kangwa n'a jamais vus pendant 3 mois du génocide. Elle a dû rentrer au bout d'une semaine. Et on savait pertinemment qu'il allait y avoir au Rwanda un génocide. Moi, j'en avais parlé dans un courrier au président de la République, j'avais oui. utilisé le mot génocide. Donc, peut-être qu'il faut sortir un petit peu de l'attentat. Si c'était, à la limite, même si c'était le SPR qui l'avait commis,
oui.
ça ne justifie pas qu'il y ait eu derrière plus d'un million de morts. Voilà.
Restez avec nous, Alain Gauthier. Alors, Midiba, vous souhaitiez réagir?
Oui, simplement, je rebondis rapidement sur ce que vient de dire Alain Gauthier. C'est-à-dire qu'effectivement, bon, s'il fallait parler de l'attentat en tant qu'événement politico-historique et judiciaire et quelles sont les pistes, etc., il faudrait une émission à part entière.
Ouais.
Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, d'après le sommaire de votre émission,
ouais.
c'est en quoi cette procédure a quelque chose de particulier qui pourrit les relations franco-rwandaises.
Oui.
Il faut être très clair. Il suffit de relire l'ordonnance de novembre 2006 du juge Bruguière. Ce document, qui prétend être une sorte de compte-rendu très abouti de son enquête, est un chef-d'œuvre de négationnisme et de réécriture de l'histoire du Rwanda, mais de fond en comble. Bon, et ce qui veut dire que même des gens qui sont vraiment connus pour leur position hostile au FPR, à Kagame, etc., et qui, d'une certaine manière, se sont réjouis de voir qu'on désignait le FPR dans l'attentat, ont quand même dû convenir que ce texte d'un magistrat qui se prend subitement pour un historien,
oui.
Et qui, c'est bien simple, il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre la version historique qui est défendue dans l'ordonnance Bruguière et la version qui est défendue par les détenus et les condamnés au tribunal pénal international pour le Rwanda d'Arusha, c'est-à-dire les plus grands génocidaires. Donc pourquoi est-ce que c'est problématique pour le Rwanda, cette procédure, en tout cas du temps de Bruguière? C'est un, parce qu'elle réécrit totalement l'histoire du génocide dans un sens où, au fond, les génocidaires deviennent des agneaux, et le FPR devient l'origine, la cause, et quasiment le protagoniste principal du
ça,
génocide.
Ça, c'est le fond du problème, et c'est pour cette raison que les relations entre les deux pays sont actuellement
très
tendues.
Alors, c'est le premier élément très important, et il est d'autant plus important que ce n'est pas la justice hongroise, ou canadienne, ou même belge qui défend cette position. C'est la justice française, le seul pays de la communauté internationale, à ma connaissance, qui ait eu un engagement connu, avéré, prouvé, de 90 à 94 pendant toute la période clé. Voilà, vous ne trouverez pas un autre pays qui se soit engagé à ce point aux côtés des Rwandais. Le deuxième problème, c'est qu'au terme de cette ordonnance, le juge Bruguière délivre 9 mandats d'arrêt. Je vous ai dit qu'il y avait une personne que personne n'a jamais réussi à identifier, mais il reste 8 cadres, hauts cadres, notamment de l'armée rwandaise, sous mandat d'arrêt international. Ce qui veut dire que pendant des années, ces personnes ont circulé dans des missions officielles ou dans des... parfois, certains étaient appelés dans des missions de maintien de la paix ou dans des manœuvres même conjointes. Il y a même eu un cas d'un de ces grands officiers qui a été appelé dans des manœuvres conjointes où il y avait l'armée française et qui était sous le coup d'un mandat d'arrêt international délivré par la France. Et à cet égard, il ne faut pas croire qu'il y aurait une spécificité française. Il y avait une deuxième procédure qui aujourd'hui est éteinte, qui était instruite à Madrid, où là, il y a 40 officiers de l'armée rwandaise qui étaient sous le coup d'un mandat d'arrêt international pour une procédure du même genre. C'est-à-dire, on entend des personnes réputées, connues pour leur hostilité au régime, certaines de la tendance Hutu Power, d'autres qui sont des gens qui ont fait défection du FPR, et il n'y a aucun transport sur le terrain de la part du magistrat instructeur, c'est-à-dire que c'est de l'instruction in vitro depuis Madrid ou Paris, premier critère, et il n'y a aucun recoupement, c'est-à-dire que vous instruisez, contrairement à ce qui est demandé à un juge, d'instruire à charge et à décharge, uniquement à charge du FPR. Donc ces deux procédures sont les vraies deux procédures qui ont posé problème aux Rwandais, parce qu'il leur était intolérable qu'un magistrat européen qui n'a jamais mis les pieds au Rwanda, qui n'entend que des détracteurs du régime et parfois des gens qui ont un pédigré extrêmement lourd par rapport au génocide, ouais, puisse se permettre de juger l'histoire rwandaise, de la juger à contre-courant, et en plus d'émettre des mandats d'arrêt internationaux qui font qu'au total, parce que certains sont sur les deux listes, vous vous êtes retrouvé à un moment donné avec en gros 40 à 45 officiers rwandais qui étaient sous le coup d'un mandat d'arrêt international lors de leur déplacement. Voilà,
c'est... Fabrice Epstein.
Oui, merci, je voudrais réagir. Je comprends et j'entends très bien ce que vous dites, Mehdi. Au fond, vous nous dites que quand un magistrat instruit à charge contre le FPR, ça pose un problème à Kigali, c'est assez logique. Et lorsque un magistrat instruit à charge contre des personnes physiques comme Sibi Kangwa, comme les bourgmestres, est uniquement à charge et jamais à décharge, là, ça ne pose pas de problème à Kigali. Donc on est, au fond, dans un véritable problème, c'est qu'un juge doit instruire à charge et à décharge dans le dossier de l'attentat, mais également dans les dossiers des Rwandais qui sont, in fine, renvoyés devant une cour d'assises pour génocide et crimes contre l'humanité. Et c'est absolument pas le cas. C'est absolument pas le cas. Alors, ça l'est peut-être un peu lorsqu'on est devant un magistrat instructeur qui instruit à charge et à décharge. Et dans certains dossiers, il y a des non-lieux en fin de parcours. Pas totaux, mais parfois, il y a des non-lieux partiels. Mais lorsque vous arrivez devant une cour d'assises et que les témoins sont entendus, c'est uniquement des témoins à charge. Et pour un avocat de la défense, il est impossible d'avoir de vrais témoins à décharge.
Mais donc, Fabrice, vous avez au moins un point en commun avec...
Je vous laisse parler, mais effectivement, on est vraiment dans une situation où on comprend que Kigali n'accepte pas qu'on instruise à charge contre le FPR, mais en revanche, ça pose aucun problème qu'on instruise uniquement à charge contre les accusés rwandais en France. Ça me dépasse.
Moi, je vous ai dit, Fabrice, que je ne me prononçais pas sur la teneur. Donc, moi, quand vous dites, si vous estimez qu'il y a eu une instruction exclusivement à charge, qu'il y a eu un procès exclusivement à charge. Bon, moi, je vous laisse en débattre avec Alain Gauthier, qui connaît le dossier aussi bien que vous. Et moi, personnellement, je ne fais qu'expliquer les raisons pour lesquelles ce dossier est un dossier empoisonné. Et c'est pas, et Alain avait raison de rappeler, que c'est pas l'événement en lui-même. Un attentat, surtout dont on ne connaît pas les auteurs. Rappelez-vous quand même que pendant les 100 jours du génocide et pendant des années, on ne savait pas qui c'était. Donc, on ne va pas déclencher un génocide contre les Tutsis alors qu'on ne sait pas qui est à l'origine. Oui. Mais j'aurai une autre dimension quand vous me redonnerez la parole, une autre occasion, pardon, d'expliquer aussi la poursuite et ce qui nous amène à la plainte contre les militaires français, toujours liée à ce dossier.
Nous allons revenir dans une troisième partie. Merci de rester avec nous. On se retrouve d'ici quelques minutes.
Le grand débat jusqu'à 19h avec Nadir Djennad sur Africa numéro 1.
Suite du grand débat consacré ce soir aux relations entre la France et le Rwanda sous les auspices judiciaires avec nos invités Fabrice Epstein, avocat de Pascal Sibi Kangwa qui vient d'être condamné en appel à 25 ans de prison pour génocide et de complicité de crimes contre l'humanité, Mehdi Ba, journaliste pour l'hebdomadaire Jeune Afrique, spécialiste des relations franco-rwandaises, Bruno Boudiguet, journaliste et éditeur, auteur de France-Afrique 2012, La bombe à retardement aux éditions Aviso, et par téléphone depuis Reims, Alain Gauthier, président du collectif des partis civils pour le Rwanda. Alors Mehdi Ba, la justice rwandaise décide d'enquêter sur une vingtaine de personnalités françaises soupçonnées d'avoir participé au génocide au Rwanda. Alors pourquoi la justice rwandaise décide de nouveau d'enquêter sur ces personnalités ?
Alors déjà, en guise de personnalité, précisons bien, ce sont tous des officiers de l'armée française, hein, ou de la gendarmerie, ou d'anciens, ou d'actuels. Bon. Il faut juste faire le lien entre le dossier qu'on évoquait juste avant pour expliquer celui-ci. C'est-à-dire que lorsque... Ça fait, en fait, depuis 2012, depuis le fameux rapport d'expertise que Marc Trévidic avait commandé, les Rwandais estiment que la démonstration du fait qu'ils n'ont rien à voir dans l'attentat est apportée, et ça vient derrière déjà une déconstruction des témoins, parce que les témoignages dans ce dossier ne tiennent pas la route. Moi, je les connais, je les ai lus, je les ai comparés. Les témoignages ne tiennent pas la route, et l'expertise, comme Bruno l'a dit, démontre que le lieu du tir ne pouvait pas être. Donc, depuis 2012, au plus tard, Kigali attend que des non-lieux soient accordés aux 7 Rwandais proches du régime qui sont encore mis en examen. Plusieurs années ont passé. Le dossier a été clos une première fois, mais il y a des parties qui ont demandé qu'il soit prolongé pour faire de nouveaux actes. Puis le dossier est clos une deuxième fois en janvier 2016. Plusieurs mois passent et tout d'un coup surgit une proposition de Nyamwasa qui, depuis 2011, avait tout le loisir de venir témoigner devant la justice française. Ouais. Et les juges, au lieu de se contenter de sa déposition écrite, de la verser en procédure ou je ne sais quoi, enfin en tout cas, rouvrent l'instruction. Ce qui veut dire que demain, quand ils vont la clore, on peut encore imaginer que des parties vont demander, que ça va durer des mois, etc. Kigali n'attend qu'une chose dans ce dossier. C'est pas la question de savoir qui a abattu cet avion, oui. Ce que peut-être on ne saura jamais. C'est que des non-lieux soient décernés, et manifestement, ce serait allé de pair avec la clôture de l'instruction. Mmh. Quand ils ont vu que la justice française rouvrait et que ça les exposait à de nouveaux mois d'attente, ils ont considéré que c'était téléguidé politiquement. Oui. Et là, d'abord par la voix de Paul Kagame, le jour de l'ouverture officielle de l'année judiciaire, puis dans une conférence de presse où Louise Mushikiwabo, la ministre des Affaires étrangères, a longuement détaillé le contentieux franco-rwandais et a annoncé ce qui s'est passé peut-être 2 semaines à 3 semaines plus tard, à savoir que le Rwanda n'allait pas tolérer plus longtemps que la France manifeste ce paternalisme et cette morgue qui consiste à, via sa justice, mettre en cause quand ça lui chante et laisser des épées de Damoclès. Voilà. Donc, ils ont annoncé qu'ils allaient ressortir leur propre dossier. Donc voilà, qu'est-ce qui vient de se passer juste là? C'est que le procureur général a lancé une demande d'entraide judiciaire au procureur général près la Cour de cassation à Paris pour demander à ce que 20 officiers français qui, de 90 à 94, à des degrés divers, à des périodes diverses, ont été impliqués sur le terrain au Rwanda, soient entendus à l'ambassade du Rwanda à Paris par le procureur général ou par les enquêteurs de l'office rwandais consacré. Voilà.
Bruno Bodiguet, est-ce qu'on peut s'attendre à une rupture des relations diplomatiques d'ici quelques semaines entre la France et le Rwanda ?
Bah, j'en sais rien. En fait, le truc, c'est qu'ils demandent justement une entraide judiciaire. Donc, ouais. donc c'est, a priori, ça ne va pas dans ce sens-là.
Mais ça ne plaît pas à des responsables français, notamment Jean-Yves Le Drian qui s'est exprimé.
Oui, voilà. Bah, en fait, on peut faire la liste un peu des politiques qui se. Voilà. Enfin, Le Drian qui a dit justement je défendrai l'honneur
de l'armée française.
En gros, qu'est-ce qu'il disait ça. On a aussi François Fillon qui ne s'est pas exprimé spécifiquement sur le Rwanda, mais on sait que voilà, il ne veut pas entendre parler des crimes de la France-Afrique au Cameroun. Il dit que ça ne s'est jamais passé. Ça, c'était des déclarations quand il était Premier ministre. On a aussi sa sortie sur le partage de la culture, sur la colonisation. On sait que voilà, c'est quelqu'un qui a une grosse tendance à faire des dénégations sur tout ce qui est crimes coloniaux et néocoloniaux. On a aussi Juppé est out, mais il était quand même le chef de file, on va dire de la défense de l'action de la France au Rwanda. Donc voilà. Et puis on a Cazeneuve qui vient d'être nommé Premier ministre. Et qui, lui, est un spécialiste du dossier franco-rwandais, puisqu'il est, il était une des chevilles ouvrières de la mission d'information qu'il laisse en 98. Et alors, lui, donc, non seulement il connaît le dossier, on a vu s'exprimer dans une émission qui s'appelait Riposte à l'époque sur France 5 en 2004, où il avait fait une grande tirade, qui voulait démontrer que la France n'y était pour rien, qu'elle n'avait pas vu venir le génocide, qu'elle n'avait que des bonnes intentions, etc. On sait dans quelle ligne il est. Il n'est pas dans une ligne a priori extrémiste. Je ne pense pas qu'il nie le génocide ou quoi que ce soit, mais on est vraiment dans, c'était la cohabitation à l'époque. Donc, à la fois la gauche et la droite sont dans une ligne quand même où ils ne veulent pas reconnaître le rôle de la France dans le génocide. Et évidemment, on comprend aussi parce que c'est un crime vraiment gravissime. Hein. Ouais. À l'échelle de la France, ce serait 10 à 15 millions de personnes exterminées en 2 semaines. Enfin, il faut quand même s'imaginer l'ampleur du crime qui s'est passé en 94.
Fabrice Epstein, saura-t-on un jour le rôle précis de l'armée française durant cette période ?
Je ne sais pas si on saura un jour le rôle précis de l'armée française. En revanche, ce qui m'amène à réagir, c'est de voir que cette information judiciaire, ou en tout cas cette demande d'entraide des 22 militaires, elle arrive pendant le second procès Sibikangwa pour mettre un nouveau coup de pression, me semble-t-il, aux jurés français et de leur dire « Attention, mesdames et messieurs, il faut absolument condamner parce que de toute façon... c'est ce que Kigali dit, les Français, les militaires français, la France est impliquée dans le génocide. Et donc, ce serait un bon moyen de se racheter une bonne conscience.
Alain Gauthier, vous, quel est votre sentiment ? Est-ce que la France doit faire toute la lumière sur son rôle durant cette tragédie ?
Oui, bien c'est évident. Je reviens quand même sur les propos de Maître Epstein que le fait de dire cette affaire-là arrive pendant le procès Sibikangwa. Moi, je crois que ça n'a absolument, mais alors absolument rien à voir. Le procès Sibikangwa n'aurait pas eu lieu si ses avocats n'avaient pas fait appel de la première décision il y a 2 ans et demi. C'est comme de dire qu'il y a 2 ans et demi, c'était un cadeau fait au Rwanda cette condamnation. Je reviens encore sur les propos que Maître Epstein m'a tenus samedi soir lorsqu'il a quitté le palais de justice, lorsqu'il m'a dit « Ah, ça y est, Monsieur Gauthier, vous l'avez, votre génocidaire, mais ce n'est pas le bon ». Non, je crois que ça ne tient pas la route. Les relations entre la France et le Rwanda ne sont pas bonnes. Elles ne sont pas bonnes, c'est pas oui. depuis aujourd'hui. Oui. Ça fait des mois et des mois qu'il n'y a pas d'ambassadeur oui. de France au oui. Rwanda. Donc, non, il y a un programme des juges d'instruction qui suit son cours, trop lentement pour nous, mais je ne veux pas lier ces deux situations. Nous poursuivons les personnes qui sont soupçonnées de génocide. Ces personnes-là, il y a des dossiers auprès du pôle Crimes contre l'humanité au TGI de Paris. Les juges d'instruction travaillent, ils vont travailler au Rwanda, ils enquêtent à charge et à décharge.
Merci voilà, beaucoup.
Ils font leur travail.
Merci beaucoup Alain Gauthier, c'est le mot de la fin. Merci messieurs Fabrice Epstein, Mehdiba, Bruno Boudiguet et Alain Gauthier d'être intervenus dans ce grand débat. Merci à Stéphanie Hartmann qui produit cette émission et Hélène Bizio qui la réalise. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition du Grand Débat. Très belle soirée à l'écoute des programmes d'Africa numéro 1.
Le Grand Débat avec Nadir Djennad sur Africa numéro 1.